Aristote, Politique, livre 6, chapitre 4, sommaire. Espèces diverses de la démocratie. Leurs caractères et leurs causes, elles sont au nombre de 5. Influence désastreuse des démagogues dans les démocraties où la loi a cessé d'être souveraine. Tyrannie du peuple, égaré par ses flatteurs. Paragraphe 1. Cette multiplicité d'espèces dans la démocratie et l'oligarchie est une conséquence évidente des raisonnements qui précèdent, puisque nous avons reconnu que la classe inférieure a bien des nuances et que ce qu'on appelle la classe distinguée n'en a pas moins. Dans la classe inférieure, on peut reconnaître les laboureurs, les artisans, les commerçants, qu'ils vendent ou qu'ils achètent. Les gens de mer, qu'ils soient militaires ou spéculateurs, caboteurs ou pêcheurs. Souvent, ces professions diverses renferment une foule d'individus. Byzance et Tarente sont peuplées de pêcheurs, Athènes de matelots, Égine et Chios de négociants, Ténédos de caboteurs. On peut encore comprendre dans la classe inférieure les manœuvres, les gens de fortune trop médiocre pour vivre sans travailler, ceux qui ne sont citoyens et libres que de père ou de mère seulement, et enfin tous les hommes dont les moyens d'existence se rapprochent de ceux que nous venons d'énumérer. Dans la classe élevée, les distinctions se fondent sur la fortune, la noblesse, le mérite, les lumières et sur d'autres avantages analogues. Paragraphe 2. La première espèce de démocratie est caractérisée par l'égalité, et l'égalité fondée par la loi dans cette démocratie signifie que les pauvres n'auront pas de droits plus étendus que les riches, que ni les uns ni les autres ne seront exclusivement souverains, mais qu'ils le seront dans une proportion pareille. Si donc la liberté et l'égalité sont, comme parfois on l'assure, les deux bases fondamentales de la démocratie, plus cette égalité des droits politiques sera complète, plus la démocratie existera dans toute sa pureté. Car le peuple y étant le plus nombreux, et l'avis de la majorité y faisant loi, cette constitution est nécessairement une démocratie. Voilà donc une première espèce. Paragraphe 3. Après elle, en vient une autre où les fonctions publiques sont à la condition d'un sens qui d'ordinaire est fort modique. Les emplois y doivent être accessibles à tous ceux qui possèdent le sens fixé et fermé à ceux qui ne le possèdent pas. Dans une troisième espèce de démocratie, tous les citoyens dont le titre n'est pas contesté arrivent aux magistratures, mais la loi règne souverainement. Dans une autre, il suffit pour être magistrat d'être citoyen à un titre quelconque. La souveraineté restant encore à la loi. Une cinquième espèce admet d'ailleurs les mêmes conditions, mais on transporte la souveraineté à la multitude qui remplace la loi. Paragraphe 4. C'est qu'alors ce sont les décrets populaires et non plus la loi qui décide. Ceci se fait grâce à l'influence des démagogues. En effet, dans les démocraties où la loi gouverne, il n'y a point de démagogues, et les citoyens les plus respectés ont la direction des affaires. Les démagogues ne se montrent que là où la loi a perdu la souveraineté. Le peuple, alors, est un vrai monarque, unique mais composé par la majorité qui règne, non point individuellement, mais encore. Homère a blâmé la multiplicité des chefs, mais l'on ne saurait dire s'il prétendait parler, comme nous le faisons ici, d'un pouvoir exercé en masse ou d'un pouvoir réparti entre plusieurs chefs qui l'exercent chacun en particulier. Dès que le peuple est monarque, il prétend agir en monarque, parce qu'il rejette le joug de la loi, et il se fait despote. Aussi, les flatteurs sont-ils bientôt en honneur. Paragraphe 5. Cette démocratie est dans son genre ce que la tyrannie est à la royauté. De part et d'autre, même vice, même oppression des bons citoyens. Ici les décrets, là les ordres arbitraires. De plus, le démagogue et le flatteur ont une ressemblance frappante. Tous deux, ils ont un crédit sans bornes, l'un sur le tyran, l'autre sur le peuple ainsi corrompu. Les démagogues, pour substituer la souveraineté des décrets à celle des lois, rapportent toutes les affaires au peuple, car leur propre puissance ne peut que gagner à la souveraineté du peuple, dont ils disposent eux-mêmes souverainement, par la confiance qu'ils savent lui surprendre. D'un autre côté, tous ceux qui croient avoir à se plaindre des magistrats ne manquent pas d'en appeler au jugement exclusif du peuple. Celui-ci accueille volontiers la requête et tous les pouvoirs légaux sont alors anéantis. Paragraphe 7. C'est là, on peut le dire avec raison, une déplorable démagogie. On peut lui reprocher de n'être plus réellement une constitution. Il n'y a de constitution qu'à la condition de la souveraineté des lois. Il faut que la loi décide des affaires générales comme le magistrat décide des affaires particulières, dans les formes prescrites par la constitution. Si donc la démocratie est une des deux espèces principales de gouvernement, l'État, où tout se fait à coup de décrets populaires, n'est pas même, à vrai dire, une démocratie, puisque les décrets ne peuvent jamais statuer d'une manière générale. Paragraphe 8. Voilà du reste ce que nous avions à dire sur les formes diverses de la démocratie.